Salut Pierre-Yves.
Truc.
Donc, tu as voulu savoir ce qu'on peut acheter pour 250 000 $. J'ai envie de te demander d'abord, pourquoi un quart de million?
Ben, c'est un chiffre qui est rond, hein, 250 000. Et j'ai vu un condo au centre-ville à 245 000, puis ça m'a extrapolé l'idée. Et Patrick, quand j'ai commencé à travailler, pour 250 000, tu avais un duplex à NDG. OK. Là, pour 250 000, oui. Qu'est-ce que t'as? T'as un beau condo au centre-ville à Montréal, quand même, hein? Un 238 pieds carrés.
238?
Oui, ça existe. Écoute, t'as un 238 pieds carrés dans une tour à condo avec gym et tout ça. Écoute, j'ai calculé, c'est l'équivalent de moins de 16 pieds par 15 pieds, tu sais, en pieds carrés.
Une grande chambre.
T'as la chambre avec le frigo, puis la cuisine, puis la salle de bain à côté, c'est une chambre d'hôtel, dans le fond. Et dans le fond, c'est rendu plus que 1000 $ le pied carré. Et là, tu te dis, ouais, mais j'achète petit, c'est un centre-ville pour les gens qui travaillent, mais là, avec le télétravail, ça vaut quoi? Bon, parfait, on va essayer d'aller plus loin. À Saint-Georges, pour 218 000 taxes incluses, t'as un beau petit jumelé avec un terrain de 4 900 pieds carrés, pas d'arbre, pas de terrassement, pas de garage. À Sainte-Julie, pour 230 000, Patrick, t'as un magnifique condo. Tu sais, les condos que t'es dans le sous-sol, mais qu'on te fait croire que t'es pas dans le sous-sol.
Comment ils appellent ça, la terrasse?
Oui, c'est que dans le fond, ils mettent de la brique jusqu'à terre. Oui. Puis là, tu as l'impression d'être au rez-de-chaussée, mais dans le fond, c'est vrai que tu es au rez-de-chaussée, mais tu ouvres la porte, il n'y a pas de marche, tu es dehors. Ça. Donc ça, pour 911 pieds carrés, à Rolla-Rue, construit en 2003, 230 000. À Saint-Augustin, pour...
Dans le bout de Québec.
Ouais, 210 000 pieds carrés, tu as un grand terrain vacant plus taxes, évidemment, pour bâtir ton domaine. Et à Salaberry de Valleyfield, pour avoir un semi-détaché, trois chambres neuves dans un nouveau quartier avec un petit terrain, 285 000 plus taxes. Comme quoi, pour 250 000, c'est plate à dire, mais tu n'as plus grand-chose de... Tu as des choses, là, mais tu n'as plus grand-chose de clé en main, disons, pour une famille. Et Patrick, 250 000 avec 50 000 de mise de fonds, c'est quand même avec les coûts de financement actuels à 2 % à peu près, là, c'est pas cher. Là, c'est moins que 850$ par mois d'hypothèque. Mmh. Mais avec tous les frais, ça veut dire qu'on ne peut plus s'en sortir vraiment au Québec de se loger comme propriétaire en bas de 1000 1200, 1300 $ par mois, même avec les taux d'intérêt bas.
On me signale que le sous-sol, là, l'appartement du sous-sol, on appelle ça un rez-de-jardin.
J'appelle ça, moi, un rez-de-budget. Que tu commences.
Mais c'est quand même le signe que le marché immobilier est quasiment en surchauffe, là.
Bien, en fait, c'est que Bloomberg sortait un article aujourd'hui puis disait « Le Canada, après la Nouvelle-Zélande, c'est le deuxième pays le plus, disons, qui montre des signes de surchauffe immobilière, des ratios, disons, au niveau des revenus par rapport au prix de l'habitation et un peu le niveau économique du pays. » Mais c'est sûr que pour quelqu'un de Vancouver, quelqu'un de Toronto, moi, l'affaire qui me dérange le plus, c'est quand quelqu'un fait ça. Montréal n'est pas encore à Toronto ou Vancouver, non? Puis Valleyfield n'est pas encore Montréal, puis Saint-Lin-des-Laurentides n'est pas encore à Repentigny. Puis tu sais, tu peux aller loin là-dedans, mais êtes-vous déjà allé à Toronto depuis 10 ans? Il y a tellement de gratte-ciel, il y a tellement de compagnies financières, c'est le centre du Canada économique. C'est difficile de comparer Montréal à Toronto, même si on a un petit côté romantique qu'on aime bien penser que la finance n'a pas quitté Montréal, mais les jobs sont partis avec dans les années 70, tu sais. Et donc, ça paraît maintenant beaucoup dans, disons, le paysage immobilier de Toronto.
OK. Disons que ton patron t'offre d'acheter une partie de l'entreprise où tu es employé ou même peut-être petit patron. Est-ce que c'est une bonne idée à considérer?
Bien, écoute, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus aujourd'hui. Tu n'en as jamais parlé. J'espère que je t'en parler. Il faut toujours voir la revente des actions. Si ton boss t'offre de t'endetter 200, 300, 500, 700 000 pour avoir une part de l'entreprise, c'est une concentration de risque pour un employé. Donc, c'est quoi ton plan de sortie? Le boss te dit-tu, j'ai l'intention qu'on vende un plus gros groupe dans 5 ans, dans 10 ans, à qui il va vendre? Parce que si tu réussis à vendre, puis tu fais un gain sur tes actions, mais tes actions seront probablement exemptées d'impôts grâce à l'exonération cumulative gain capital sur les entreprises privées sous contrôle canadien. C'est quand même intéressant. L'autre point, pourquoi on t'offre des actions? Tu sais, ton boss, là, il veut-tu minimiser son risque? Il veut-tu te tenir? Il fait-tu un prix d'ami? Est-ce que tu accepterais pour flatter ton ego? Ou c'est une façon de t'emprisonner dans l'entreprise? Pense-y. Disons que tu achètes 15 % de l'entreprise, puis que tu es salarié dans l'entreprise. Hey, bonne chance pour tes négociations futures. Tu vas essayer de négocier ton salaire avec quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel majoritaire, puis il sait très bien que tu partiras pas. Tu es actionnaire. Après ça, le prix demandé. Tu sais, le prix demandé, c'est la valeur actualisée de ce que ça vaut dans le futur. Mais quand tu extrapoles dans le futur, tu te demandes, est-ce que le chiffre d'affaires et les bénéfices actuels sont perpétuels dans le futur? Est-ce qu'il y a un gros risque de dévaluation? Disons qu'on essaie de te vendre un magasin de CD. Tu sais, il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne plus comme avant. Pour ça, le financement, qui va te financer? Est-ce que tu vas aller chercher du financement pour acheter une partie de l'immeuble ou juste l'entreprise?
Je t'écoute, j'ai pas l'impression que c'est une bonne idée bien souvent.
J'ai pas dit ça. Juste que souvent, on a une vision idyllique de l'entreprise. Puis qui va te racheter? Mettons que tu vends pas. Tu vas faire quoi? Tu vas travailler là le restant de tes jours? T'es-tu le genre de personne à aimer ça? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Si t'es le genre de personne toute ta vie à être parti sur un nouveau projet tous les 3 ans, puis qu'on t'offre d'acheter une entreprise pour que tu la fasses croître sur 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tes employés clés, est-ce que tu les as assurés? Tu sais, t'as-tu ciblé 2-3 employés ou gestionnaires là-dedans que tu dis, s'ils sont plus là, on fait même plus le même chiffre d'affaires parce qu'ils attirent de la business? C'est quoi ton coût de renonciation aussi? Parce que si tu mets 500 000 dans une entreprise, que tu concentres l'avenir de tes enfants là-dedans, qu'est-ce que tu aurais pu faire avec 500 000 ailleurs? Est-ce que c'est plus? Donc, puis la dernière question, c'est, te connais-tu, tu sais? Tu veux-tu vivre?
Ça, c'est vraiment une question existentielle.
Oui, c'est pas facile, hein? Faut aller voir beaucoup de psychologues pour te faire dire qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, jusqu'où je veux aller, dans combien d'années. Puis je suis d'accord, mais le thrill d'être entrepreneur, c'est vrai que ça a quelque chose de très valorisé dans la société de dire, tu sais, Patrick, je suis actionnaire d'une compagnie, tu sais, ça fait big, là. Tu sais, comme moi, je suis actionnaire de la Banque Royale. Bon, je suis un petit actionnaire, un microscule, mais j'aime ça quand les gens me rencontrent, je dis, moi, je suis propriétaire de la Banque Royale. Ça me toujours la réaction, les gens ne comprennent pas que tu peux être un micro-propriétaire. Ce que je vous dirais, par contre, pour des raisons fiscales, si vous pouvez être actionnaire d'entreprise, soyez là à plus que 10 %. 10,1, 10,2, peu importe.
Pourquoi?
Parce que quand tu vas te verser un dividende à une de tes sociétés de gestion, par exemple, si tu veux remettre l'argent dans l'entreprise comme investissement ou pour rembourser, l'impôt n'est pas pareil. Puis l'autre point, c'est le financement. Si le propriétaire croit en vous puis veut vendre une partie de l'entreprise, pourquoi vous ne négociez pas avec lui qui vous finance lui-même? Exemple, tu payes 100 000 tout de suite puis 50 000 par année pendant X nombre d'années. S'il croit à sa business, il va t'aider. Tu comprends? Il y aura un taux d'intérêt là-dedans qui sera raisonnable, mais il y a aussi un partage de risques. Dites-vous, si on vous offre, sans vous l'ayez demandé, une portion de l'entreprise, qu'est-ce que vous allez laisser sur la table? Parce que si le propriétaire fait ça pour que tu travailles comme un fou puis que lui commence à se la couler douce, bien, oui, il te donne plus d'argent, mais en même temps, il te transfère du risque puis il te transfère des responsabilités. Est-ce que tu aurais pu faire ce salaire-là ailleurs sans être entrepreneur? C'est beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, la passation des pouvoirs, Patrick, c'est très important dans le Québec d'aujourd'hui. Puis, c'est très difficile de dire à un boomer, de dire, « Hey, moi, là, j'ai 3 millions, je veux vendre mon entreprise. » Mais faut que tu le trouves, le jeune, puis le groupe de jeunes qui vont embarquer, puis dire, « Tu sais, on va hypothéquer notre avenir pour te racheter. » Et ça, c'est un problème. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs présentement qui ont mis une belle business à la table, ils ont bâti le chiffre d'affaires, ça va bien. Aucun plan de succession, pas d'enfants qui veulent embarquer. Puis là, ils essayent de vendre ça, puis ils se rendent compte qu'une entreprise privée, c'est pas liquide. C'est une extrêmement grande concentration de risques.
C'est pas un peu, à un certain degré, ce que vit Pierre Fitzgibbon. Il n'y a pas de marché pour ses actions.
Ouais, Pierre Fitzgibbon vit une autre affaire. Pierre Fitzgibbon est multimillionnaire. Il a fait la passe avec une entreprise. Et là, il a des placements privés à gauche et à droite. Et certains placements privés étaient, disons, en phase de démarrage, de développement en techno. Puis comme tu dis, ces entreprises-là sont trop tôt dans leur développement pour être évaluées à la bonne valeur. Tandis qu'un entrepreneur qui est... Tu sais, mettons, Monsieur Fitzgibbon, on va être honnête. Disons que les placements qui y restent, ils perdaient tout, je pense qu'ils seraient encore corrects, tu comprends?
Oui, mais il n'y a personne qui veut laisser de l'argent sur la table.
Non, mais c'est plus facile de mettre 300, 500 000 dans une entreprise quand tu peux te permettre de le perdre que quand c'est l'avenir de tes enfants, ta blonde, puis le reste de ton avenir, tu sais.
Merci, Pierre-Yves. On se retrouve demain.